J'ai une question. Donc la thématique de la ressemblance, elle a aussi un son versant énigmatique, anthropologique, au sens où, par exemple, dans les familles, quand quelqu'un naît, on dit à qui il ressemble. La question, c'est pourquoi cette problématique de la ressemblance qui se ressemble, s'assemble, etc., a tellement de succès, alors que quand tu parles, c'est tellement à la fois logique et fondé, comme si ça fait longtemps que ça devrait tomber comme une vieille lune. Donc il y a un problème, il y a une énigme. Et j'ai l'impression qu'il y a cette question de la ressemblance qui est très, très troublante, et il y a cette idée, cette problématique énigmatique de l'identité, à quoi je ressemble, à qui je ressemble, et qui n'est pas résolue par le même en miroir. Ça, je dis identité et ressemblance. Et peut-être on confond ce niveau-là avec l'autre qui est « je ne bouge que pour quelqu'un qui me ressemble ». C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a des catastrophes à l'extérieur, parce que la problématique aussi, donc, de réfugiés qui arrivent du bout du monde, chassés par des catastrophes majeures, politiques ou naturelles, ils arrivent, pour certains d'entre eux, donc on revient à la sociologie du contemporain, il y a plein d'associations, il y a des émotions collectives, je ne dis pas empathie, sympathie, compassion, mais il y a une prise de conscience collective, on l'appelle comme on veut. Et puis pour d'autres cas, stupéfiants, dans un film, on s'arracherait les cheveux, on hurlerait, etc., on resterait cool. Exemple, le fait qu'il y ait énormément de morts maintenant dans la Méditerranée, je pense qu'on pourrait encore se baigner, je veux dire, ça devient un lieu, un vrai cimetière aquatique, et dans une indifférence ahurissante, alors que les films sont là, les démonstrations sont là. Et donc, ce qui est troublant avec l'idée de ressemblance, c'est pas seulement la ressemblance, c'est que si je crois que ça me ressemble, donc cette idée un peu archaïque et un peu idiote qu'on peut se projeter, quelque chose est touché qui fait que j'ai accepté même de percevoir la réalité de ce qui arrive à autrui, que ce qui lui arrive, qui meurt dans des conditions atroces en Méditerranée, c'est vrai, et non pas, c'est pas que c'est faux, mais c'est dans un ailleurs, d'un irréel, réel peut-être, etc., c'est même pas, là. C'est un étrange statut, il y a des degrés de réalité, donc il y a des réalités qui sont, oui, c'est vrai, mais c'est clivé, c'est de l'autre côté du miroir et de l'écran. Et donc ce que je veux dire, c'est que dans la problématique de l'acceptation de l'autre, telle que tu l'as décrite, avec comme ça une force formidable, et le fait qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas, il y a aussi cette idée que si je crois que l'autre me ressemble, qui peut être différent, au fond, c'est, je bouge, et si je crois qu'il m'est étranger, ça touche la perception, ce qui lui arrive devient complètement clivé dans un autre monde, comme dans quelque chose de science-fiction, où derrière l'écran, et comme l'écran est intransitif et que je ne peux pas plonger dans l'écran, bon, bah, je continue à manger des pop-corn devant l'écran, pendant que dans l'écran, des gens se noient dans d'atroces conditions. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas désenclaver ces deux niveaux, c'est-à-dire je bouge quand je crois que ça me ressemble, donc la ressemblance, non pas seulement comme argument de la fermeture, tu es solidaire quand tu te ressembles et puis les autres sont des autres, on ne peut pas blairer parce qu'ils sont différents, mais je bouge quand je crois que ça me ressemble et je suis parfaitement élégant, cool quand je crois que ça ne me ressemble pas et c'est un peu différent, enfin je sais pas, je me pose la question.
Je ne sais pas si je bouge quand je crois que ça me ressemble. Le fait d'être, c'est quelque chose qui a à voir avec, oui, avec l'émotion et la proximité, pas nécessairement avec la ressemblance, je crois pas. Tu vois.
Juste un point par exemple. Ouais. Au Japon, les Français qui ont été victimes du tsunami ont beaucoup bouleversé les Français ici. Par contre, une catastrophe en Afrique ne bouleverse pas, c'est en ce sens-là que je voulais dire, c'est-à-dire un peu les mêmes. Hein. Et il y a bien de la ressemblance quand je dis ils sont comme nous, il y a une dimension de la ressemblance. En ce
sens. Oui, mais il y a aussi, si tu veux, quand je parle de la proximité, c'est-à-dire que les choses qui se passent loin, qui sont massives, il y a une sorte d'écran en effet qui se constitue. Et beaucoup de récits, je relisais récemment, y compris des récits de Lampedusa, et les gens disaient, mais Voilà, j'ai croisé son regard, là, je ne pouvais pas ne pas lui... Et tu vois, il y a quelque chose de l'ordre... Alors, on ne croise pas tous les regards, de tous les... mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intersubjectivité, de la sensibilité qui passe. Alors que... Et ça, c'est pas la ressemblance, c'est quelque chose de la proximité, je ne sais pas comment dire, d'une sorte de... Oui, quelque chose qui passe entre le regard, qui passe dans un sentiment de tu vois. Alors oui, tu dis il y a des Français qui ont été sensibles parce que c'était d'autres Français. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ça se soit. Je pense vraiment que il faudrait d'ailleurs, j'ai pas toutes les réponses, il faudrait faire aussi une sorte d'anthropologie des mobilisations, tu vois, hein, des actions, des solidarités, comment ça se passe, comment ça marche. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est sur ces histoires de solidarité entre juifs et noirs, c'était ça, c'est-à-dire que, bien sûr, il y avait les idéologies, c'était au nom du communisme, où c'était le pasteur et le rabbin, où c'était... Mais ça ne marchait vraiment que quand ils étaient côte à côte, quand ils commençaient à se connaître. Sinon, c'est quelque chose de froid qui peut lancer la mobilisation, mais qui ne peut pas lui donner de l'épaisseur. Et quand j'entends, pour dire les choses un peu, tous ces débats récurrents actuellement sur la convergence des luttes, tu vois, quand il y a voilà, les nuits debout, tout ça, c'est une espèce de graal, la convergence des luttes, et ça ne prend pas jusqu'à présent. Il faut s'interroger aussi là-dessus. Pourquoi ça ne prend pas? Parce que on ne fait pas... où il y a des organisations, il y a un modèle d'organisation très forte, très puissante, politique, qui elle-même est un milieu d'interconnaissance, où il y a un mouvement, et dans ce mouvement, dans la façon dont spontanément, par indignation, par conviction, les gens se mobilisent, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une rencontre qui fait que ça peut continuer. Tu vois, ou c'est une organisation, je sais pas, le PC de la Belle Époque, bon, là, on était au PC comme dans une famille, etc., où on est tout à fait dans autre chose actuellement, et c'est vrai qu'on se pose la question, du coup, parce qu'on n'est plus dans ces organisations, mais comment les choses prennent ou ne prennent pas, alors elles doivent prendre autrement dans des formes de rencontres, de proximité qui se créent. Voilà, qui se crée dans le mouvement. Et on ne comprend pas bien ça, et on n'en tient pas bien compte, je crois. Mais bon.
Moi, j'aimerais prolonger la remarque de Véronique, parce que est-ce qu'on peut aimer la différence ? C'est ça, au fond, la question qu'on peut se poser. Parce qu'on est, depuis un certain temps, on valorise la différence. C'est l'influence des sciences sociales, de l'ethnologie, etc. Et c'est vrai que c'est une donnée importante. Mais est-ce que on ne fait pas un effort, d'abord, pour se sentir proche de ce qui est différent? Et finalement, si on finit par l'accepter et à l'aimer, c'est parce que derrière cette différence, on découvre du commun, de la similitude. Parce que la différence, c'est l'état de nature, au contraire. Nous sommes naturellement différents. Il y a des forts, des faibles, des petits, des grands, des beaux, des laids, etc. Et l'ordre humain doit être construit contre la différence. En fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'ambigu. Il y a des gens qui, de toute façon, alors, rejettent la différence. Sinon, c'est des pensées un peu élémentaires, parce que ce qui est différent, ça les angoisse, etc. Mais chez ceux qui, je le vois dans le discours, et c'est normal, c'est qu'ils veulent au contraire aller vers ce qui est différent, etc. crois que c'est pas la différence qu'ils aiment là, c'est au contraire la nécessité d'y retrouver de la similitude. Il me semble, je pense à, j'oublie maintenant tous les noms propres, ce grand sociologue qui était au fond qui aurait pu être l'anti-Durkheim, qui a été mis de côté, qui fondait son principe du mimétisme. Vous allez tous me dire son nom.
Tarde.
Ben, il y avait quelque chose d'assez profond dans ce mécanisme social qu'il voyait, qui est que finalement le rapport social se fonde sur le mimétisme. Et s'il y a mimétisme, c'est parce qu'en fait on n'est pas semblable, mais on doit le devenir. On fait l'effort pour le devenir. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu. Je vais essayer de prolonger la pensée de Véronique pour aller vers une sorte de critique de ce discours de la différence qui est. D'abord, qui ne convainc pas tout le monde, qui est provoquant pour d'autres, qui, quand il est mal, peut-être. Voilà.
Oui, enfin, moi, ce qui me gêne un peu la façon dont tu le poses, c'est-à-dire que c'est une sorte d'opposition. C'est-à-dire. Bon, c'est presque une banalité, on est à la fois tous différents et tous semblables, et donc il ne s'agit pas de choisir. Oui, mais enfin, la société en effet est construite sur cette idée, et donc elle construit elle-même une réalité, tu vois. L'idée de cette opposition binaire, différence, ressemblance, moi, me gêne. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que on peut, y compris dans nos travaux d'ailleurs, on peut choisir de travailler sur des objets où il s'agit de où la différence n'est pas prise en compte, ou au contraire d'être résolument comparatiste. Mais si tu es comparatiste, tu tiens compte des différences et des ressemblances, les deux nécessairement. Sinon, il n'y a pas de comparatisme. Si tout est semblable, quel est l'intérêt du comparatisme? Si tout est différent, l'affaire tombe. Donc, tu vois, tu peux pas être dans une opposition comme ça. Tu dois tenir les deux. Simplement, dans ta réflexion, dans ton travail, à un moment, ce qui t'intéresse, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu modestement, c'est qu'est-ce qu'on compare? On compare des formes d'expérience, alors toutes choses par ailleurs peuvent être très très différentes, et on peut tenir les deux, et c'est ça qui me semble intéressant. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer comme on faisait dans les années 80, le droit à la différence, c'est pas de ça qu'il s'agit, tu vois.
Par exemple, quand tu parles, et sur le bateau Aquarius, quelqu'un tend la main à quelqu'un qui sort de la mer et qu'il y a l'échange des regards, et que ce quelqu'un qui sort de la mer est un enfant de 10 ans, soudanais, passé par la Libye, je sais pas, et la personne est une jeune médecin italienne qui n'avait jamais avant, etc. Je dis ça parce que j'ai entendu le témoignage. Et à ce moment-là, donc il y a ce moment dont tu as très très bien dit que ce n'est pas la compassion, le ceci, hein, mais d'empathie, c'est-à-dire la compréhension, d'ailleurs ça doit être cognitivement, on peut l'élucider dans les synapses, c'est-à-dire la compréhension absolue, radicale, immédiate du point de vue d'autrui dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire, et aussi avec sa souffrance qui envahit. Parce que ce que décrit aussi cette dame, c'est que quand cet enfant est arrivé sur le pont, et c'est la façon dont il a une espèce de crise, voilà, elle ne parle pas la langue, tout ça. Matelots, médecins, tous les adultes qui étaient là, italiens, ont sangloté. Et elle a dit, avant, je ne savais pas, avant de venir, je ne savais pas que c'était réel, j'y croyais pas, pourtant j'avais toutes les infos. Alors, il y a bien, là, quand on dit, j'ai compris qu'on est pareil, on a tous ces expériences, enfin, les gens qui essaient de, par exemple, des gens extrêmement différents, oui, qui prennent un café ensemble, l'un est africain, l'autre est une dame dans un camping, voilà. Mais on est pareil, tout à coup ils viennent donc là il n'y a pas, peut-être pas de son, mais on est pareil. Donc cette idée que ce moment clé, clé d'empathie qui n'arrive pas comme ça. On peut pas produire artificiellement. C'est même pas ni au cinéma et ni peut-être faut lire Victor Hugo. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais on peut pas, heureusement peut-être, comme un chef d'orchestre le produire en disant allez je mets la musique et voilà. Et donc ce moment d'empathie etc. C'est à la fois on est pareil. Et dans ce on est pareil avec le différent, c'est là que se produit. Bon. Et donc c'est bien que peut-être l'adjectif différent, il faut peut-être le remplacer par d'autres adjectifs. Puisque finalement, quand on dit X est français et Y est allemand, c'est bien les deux prédicats allemand ou français qui sont différents, d'accord, pour des raisons de forme d'expérience, d'être né là, etc. Mais le verbe être, lui, c'est le même. Donc c'est, la différence arrive au moment de l'adjectif, du prédicat, tu es ceci, là. Et dans l'interaction avec récit de vie partagé, c'est les formes de l'expérience, il n'y a plus l'adjectif. Ça ne suffit pas de dire je suis malien ou je suis né là, et voilà mon prénom, et voilà ma tête. C'est plus du tout important. Donc en fait, il y a du pareil, et non pas de l'identique, dans le récit, dans la forme de l'expérience humaine, il y a du pareil. Il y a un commun, voilà. Il y a du commun. Il faudrait, et les adjectifs fabriquent les étiquettes qui prescrivent qu'on devrait être différent, puisqu'on est. Je sais pas si je
vais expliquer. Si, si, là, quand tu dis il y a du commun, je suis d'accord. Quand tu dis on est pareil, je ne l'étais pas. Si tu veux, parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre. À ce moment-là, il y a quelque chose qui passe effectivement d'une compréhension, d'un moment ensemble, d'un commun, qui n'est pas nécessairement on est pareil. Mais...
c'est une phrase pour
l'ethnologue,
on est pareil. Quand les gens différents, tout à coup, communiquent, ils au fond, on est pareil.